Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Hello, bonjour, ciao à tous et à toutes. Il est 14h, c'est Rayon libre et nous sommes en direct cette semaine. Good what and good vibes. Mais avant, je vous rappelle que vous écoutez Rayon libre. L'émission vous plaît, elle vous déplaît, elle pourrait intéresser quelqu'un dans votre entourage. Eh ben, partagez-la, faites-la circuler, faites-la tourner. Rayon libre, c'est comme le vélo, c'est mieux quand on tourne les jambes. Cause Commune, la radio qui accueille cette émission, 269 numéros qui nous supportent. Merci à vous tous et toutes qui œuvrez pour que cette radio associative continue à émettre. Faut qu'on m'explique, je ne comprends pas, j'ai peur même de ne rien comprendre. Alors, j'ai cherché, j'ai regardé l'organigramme sur le site du gouvernement. Où est donc calé dans l'organigramme gouvernemental le ministère des Transports ? François Durouvray est ministre délégué auprès de la ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation chargée des Transports. Ministre délégué, il est donc sous la tutelle de Catherine Vautrin, la ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Catherine chapeaute deux autres ministres délégués, François Gatel, qui est ministre délégué chargé de la ruralité, du commerce et de l'artisanat, et Fabrice Loher, ministre délégué chargé de la mer et de la pêche. Ils sont donc tous sous la houlette du ministère du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Territoire et décentralisation, c'est important comme sujet. Mais où est donc la logique ? Et pourquoi est-ce que c'est le ministre délégué chargé des Transports qui convie les associations une semaine après le meurtre de Paul Varry, cycliste assassiné par un automobiliste ? Et pourquoi les associations telles que la FUB ou encore le Club des villes et territoires cyclables et marchables y vont, comme une façon d'accepter que l'interlocuteur ministériel proposé est ce qu'il se fait de mieux. Le décès de Paul n'est pas un problème de transport, ni même d'infrastructure, mais un délit routier. J'ai vérifié, hein, sait-on jamais, le ministère de l'Intérieur gère la délégation à la sécurité routière, entre autres. Quand un tel drame survient, qui sont les premiers sur le lieu ? Ce n'est pas la DDT, mais bien les pompiers et la police. Ils sont placés sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Quand un tel drame survient, ce n'est pas au départ un problème d'aménagement du territoire, c'est un problème de sécurité routière. De quel ministre dépend la sécurité routière ? Eh bien, je viens de vous le dire, le ministère de l'Intérieur. Dès lors, dans quelle mesure le ministre des Transports est légitime et le bon interlocuteur pour recevoir les représentants du monde du vélo ? N'avons-nous pas ici un problème de gouvernance ? Quand le vélo était cool, tous les ministres se précipitaient pour apparaître sur la photo. Quand le vélo devient un problème, il n'y a plus personne. Pourquoi on nous met dans nos roues le ministre délégué en charge du transport et non le ministre de l'Intérieur ? C'est absurde ? Enfin bref, j'ai l'impression. En juillet 2024, fut signé un contrat de filière France Vélo avec 6 ministres. Je recevais d'ailleurs à ce micro, il y a 15 jours, le président de cette filière, Patrick Guinard. Les 6 ministères qui signent sont transition écologique, industrie, transport, tourisme, sport, emploi et formation, point d'un ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, je m'étonne aussi et je dois me reprendre. Je disais plutôt quand le vélo devient un problème, mais dans le cas de Paul, le vélo n'est pas le problème. Le problème, c'est la voiture. Le problème n'est pas le cycliste, c'est l'automobiliste. Pourquoi on reçoit les représentants des vélos qui sont les victimes et pas les représentants des automobilistes ? Qu'a à dire 40 millions d'automobilistes sur ce point. Pourquoi tenter de rassurer les victimes quand au contraire il faudrait effrayer peut-être les coupables ? Bref, vous l'avez compris, j'ai du mal à comprendre. Mon invité du jour, lui, il a compris. Il a compris que le VAE n'est pas suffisamment compris par la population française. Il a compris que le VAE, c'est un objet qui mérite d'être essayé, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Il est directeur général adjoint chez Mobilité Demain. Son entreprise porte un programme qui s'appelle Good What. Nous recevions il y a 2 ans sa directrice marketing pour nous expliquer cette initiative. Pourquoi alors recevoir à nouveau Good What aujourd'hui ? Eh bien parce qu'avant ce programme, Good What était financé par un programme C2E. En gros, ce sont des subventions. En résumé, et donc depuis 1 an, Good What est devenu un produit financé à 100% par ses propres deniers. Il doit donc vendre son programme et le rendre viable financièrement. Quand on s'inquiète du désinvestissement de l'État sur le plan vélo, il est intéressant d'aller demander à une entreprise qui a déjà fait cette transition, le vélo, est-ce viable sans subvention ? Et si oui, peut-être que Sylvain a une recette qu'il voudra bien nous partager. Bonjour Sylvain Redelet, merci d'être avec nous au micro en studio aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Allez hop, première question Sylvain. On plonge, un programme vélo comme Good What qui n'est plus subventionné, est-ce qu'il est viable économiquement ?
Oui, il est viable, c'est forcément plus compliqué, il faut convaincre l'employeur de mettre des moyens sur la question du vélo. Et au-delà du vélo, de mettre des moyens sur la question de la transition des mobilités. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et En soi, derrière ce mot, il y a vraiment une logique d'aller de se dire que l'employeur a une responsabilité plus forte que sa seule activité économique.
Ouais.
Et donc, il faut qu'il agisse dans la société et auprès de ses collaborateurs.
Et alors justement, quand même, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est ce dispositif GoodWatt et comment il s'intègre dans votre entreprise qui s'appelle Mobilité Demain ?
Oui. GoodWatt, c'est un dispositif de découverte du vélo assistance électrique pour les déplacements du quotidien et notamment les déplacements domicile-travail. L'idée, c'est d'aller convaincre des personnes qui se déplacent aujourd'hui en voiture sur un trajet relativement court, inférieur à 10 km, d'essayer de leur faire essayer le vélo assistance électrique pendant un mois, un vélo tout équipé, assuré, avec tous les accessoires qui vont bien, casque, sacoche, antivol, etc. De les coacher, de les accompagner et de faire en sorte au bout d'un mois de les avoir convaincus.
À la transition pour qu'ils se déplacent à vélo.
Exactement. Le but, c'est de fabriquer des cyclistes à partir des automobilistes. Aujourd'hui, la part modale du vélo, elle est de 3-4%, là où la voiture, c'est les 3/4 des déplacements.
Ouais.
Donc, il y a vraiment un intérêt à aller convaincre un grand nombre d'automobilistes qui ont un trajet court de le faire autrement, ou en tout cas d'essayer de le faire autrement.
Et donc, ça veut dire que pour que GoodWatt se déploie, il faut que vous alliez convaincre un employeur de mettre à disposition des vélos pour ses employés. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Exactement. Il y a un intermédiaire qui est l'employeur qui vient financer. Puisque changer ses habitudes, c'est pas chose facile, on le fait pas spontanément, on le fait si on est incité. Donc l'idée, c'est que l'employeur finance pour ses collaborateurs ce test, cette expérience, et que derrière, le collaborateur a juste à essayer, à pédaler et à se laisser convaincre.
Et alors, ce programme, il a été subventionné il a été lancé en 2020, si je me souviens bien, par des financements C2E. C'était, à mon avis, enfin, vous allez me le confirmer ou pas, est-ce que c'était indispensable de mettre le pied à l'étrier via des financements C2E ?
Oui, on a fait quand même du chemin en 4 ans. Hein. Aujourd'hui, le vélo commence à être pris au sérieux par les pouvoirs publics.
Ouais.
Il faut bien voir d'où on partait. Le premier plan vélo national, il date de 2018, le tout premier.
Ouais.
On a un deuxième en 2023, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est-à-dire que maintenant, on commence à considérer le vélo comme un vrai mode de transport, à part entière, non pas comme un loisir le week-end, hein, c'est un peu le sport. Mais pour autant, pour gravir ces marches une par une, il fallait amorcer la pompe. Donc, on a été aidé pour aller chercher les employeurs, surtout en période Covid. On s'est lancé en 2020. La préoccupation première des employeurs à ce moment-là, c'était pas forcément de changer les habitudes de déplacement de leurs collaborateurs. Surtout que nos interlocuteurs au sein des employeurs, c'est principalement les RH. Et donc, à ce moment-là, ils avaient
d'autres
priorités.
Ouais.
Voilà. Pour autant, c'était un vrai tremplin parce que ça a permis à tout le monde de se poser des questions sur son déplacement. À partir du moment où on est privé de déplacement pendant des périodes qui ont été plus ou moins longues avec les différents confinements, on se réinterroge sur pourquoi je me déplace, comment je me déplace. Et on se dit aussi, ces déplacements contraints, c'était pas forcément quelque chose de bien vécu. Comment je fais d'un déplacement contraint, qui est donc une contrainte dans mon quotidien, comme le transformer finalement en un plaisir. Et le vélo peut venir répondre à cette problématique-là.
Vous disiez juste avant, vous avez fait beaucoup de chemin entre 2020 et 2024. Qu'est-ce que vous avez appris de plus pendant ces 3 ou 4 ans ? Si vous deviez retenir, j'imagine plein de choses, mais si vous deviez retenir 3 ou 4 faits marquants ?
Déjà, c'est comment on fait de la mobilité un enjeu auprès des employeurs. Donc, je parlais de la RSE, c'est quelles sont finalement, on va dire, les douleurs d'un employeur, ce sur quoi il aura envie d'agir parce que c'est un problème pour lui à ce moment. Dans la période post-Covid, il y a quand même eu tout un enjeu de marque employeur, de fidélisation de ses équipes,
ouais.
Parce que il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions, et donc un changement de paradigme, et donc des personnes qui changent de boulot, et donc finalement une tension sur le marché de l'emploi. Donc déjà, pourquoi je resterai chez mon employeur ? Qu'est-ce qui me fait être fier d'aller travailler ? Et donc mettre à disposition, par exemple, des vélos, des facilités pour se déplacer, c'est aussi renforcer sa marque employeur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez fort pendant ces 4 années. Ensuite, évidemment, on l'a vu avec la succession des canicules, que la question environnementale est une vraie préoccupation des citoyens comme des entreprises. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour améliorer mon bilan carbone ?
C'est une vraie réflexion qu'on entend auprès des employés, comment je peux participer, faire mon petit geste de colibri, entre guillemets ?
On l'entend plus effectivement auprès des employés qu'auprès des employeurs. C'est-à-dire que quand on demande à nos participants un peu quel bienfait il tire de ce mois d'expérience, la première chose qui sort, c'est le respect de l'environnement. C'est-à-dire, ouais. Je suis très fier, à mon échelle, d'avoir changé mon mode de transport. Je ne me déplace plus en voiture, je me déplace en vélo. Mais il y a d'autres co-bénéfices qui vont souligner. Ils vont parler aussi du sentiment de liberté.
Ouais.
Et ça, c'est très fort. Nous, on pensait qu'ils allaient dire les économies financières, parce qu'on les met en avant, ça coûte moins cher, etc. Mais non, pas du tout. Le deuxième argument qui sort après le respect de l'environnement, c'est ce sentiment de liberté. Mon trajet, comme je disais, qui était une contrainte, devient un plaisir. Mmh. Je me reconnecte à mon environnement. Des fois, si j'ai mes enfants à l'arrière, je me retrouve à parler avec eux, à vivre ce moment le matin. Donc, c'est du bien-être, en fait, qui va sortir avant.
Entre le moment où vous finissez votre programme financé par des C2E et le moment où vous devenez une société privée où il faut aller chercher les sous tout seul comme des grands, entre guillemets, vous avez publié un livre blanc. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre blanc, c'est une sorte de constat que vous faites, c'est une sorte de propension naturelle à projeter nos propres peurs et notre propre savoir. On va pas à Marseille, parce qu'à Marseille, tout le monde le sait, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de demande. Et c'est quelque chose que vous avez identifié, ça, comme étant un marqueur fort, j'ai l'impression.
Oui, on a tous des biais, naturellement. Nous, on s'est dit, il faut qu'on cible des employeurs de grande taille, parce que c'est là qu'il y a une masse critique plus importante pour les convaincre de passer au vélo. Il faut qu'on vise des territoires qui sont déjà cyclables, parce qu'aller proposer des vélos à des automobilistes donc, qui ne sont pas cyclistes, pas formés, pas sensibilisés à ces questions-là, dans un endroit où il n'y a pas d'infrastructure, ça va être des accidents en pagaille. Donc, on a forcément mis notre vision là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? On est allé chercher d'abord les territoires les plus cyclables, les plus grosses entreprises, les plus gros employeurs. Est-ce que c'est ceux qui en avaient le plus besoin? Est-ce que c'était les territoires les plus importants à viser en premier? C'est là où on arrive aux limites, effectivement, de nos perceptions. Parce que quand on est allé chercher des PME, des entreprises plus petites ou des territoires moins cyclables, ça a eu le même succès.
Ouais.
Voire même, des fois, un succès supérieur. Donc, c'est là où on a tendance à se dire, on s'auto-censure. On a tendance à dire, non, là, ça va pas le faire. Avec tel employeur, ça va pas être possible. Alors que le besoin et l'envie de vélo, elle est assez diffuse finalement.
Et alors quelle est la différence entre un employeur qui va mettre en place votre dispositif Goodwatt et un qui ne va pas le mettre? C'est quoi? C'est un porteur de projet qui y croit au départ? Selon vous, c'est quoi la différence?
Alors il y a de l'humain, parce qu'il y a nos interlocuteurs en face. C'est plus facile d'aller mettre en place notre dispositif chez un employeur où notre interlocuteur est déjà convaincu du vélo.
Ouais.
Donc ça c'est clair. Après, c'est aussi une culture d'entreprise. On voit que chez certains employeurs, la question du bien-être de ses collaborateurs, de la question environnementale est plus développée que chez d'autres.
Mmh.
Et puis c'est quand même une question de budget. Et aujourd'hui, tous les employeurs n'ont pas la même capacité à investir dans, le bien-être de leurs collaborateurs. Donc c'est une somme de petites choses. Il y a aussi beaucoup d'a priori, et c'est un peu tout ça qu'il faut aller à la fois démonter et argumenter pour aller convaincre les employeurs.
Détricoter. Pareil, quand on regarde dans votre livre blanc et quand on regarde un peu sur votre site les différents interlocuteurs que vous avez, on se rend compte qu'il y a par exemple a priori un bouche à oreille qui fonctionne quand on voit qu'il y a un CHU qui suit un programme, puis il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième. La meilleure com, c'est le bouche à oreille quand on parle de vélo.
Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est une bonne méthode. Effectivement, le CHU, vous le citiez, on en a 17 aujourd'hui.
Ouais.
Le CHU, c'est un bon exemple parce que il y a une organisation assez similaire sur tous les territoires des CHU. C'est des gros employeurs, situés en périphérie souvent des grandes villes. Aujourd'hui, les sites des grandes villes en général se sont décalés en périphérie avec des contraintes de stationnement qui sont fortes.
Oui, du foncier, il y a un gros problème de foncier.
Exactement. Il faut faire venir 10 000 salariés en moyenne sur un site. Et tous les patients et toutes les visites.
Ouais.
Donc, y a un vrai intérêt pour eux à faire en sorte que leurs collaborateurs se déplacent autrement. Sachant qu'en même temps, ils ont souvent des horaires décalés, donc les transports en commun ne sont pas toujours une solution, le vélo a sa pertinence. Et donc, aller les convaincre avait du sens. On est sur des masses critiques importantes, comme je disais, des dizaines de milliers de collaborateurs, donc du volume à aller convaincre et qu'on peut inscrire dans la durée.
Oui, mais par exemple, on entend aussi souvent par ceux qui ne veulent pas de vélo, oui, mais moi, je suis en horaire décalé, c'est pas possible. Là, vous nous dites que le CHU, c'est souvent des horaires décalés.
Oui.
Et justement, le vélo a une vraie pertinence parce que les transports en commun n'existent pas à ce moment-là.
Exactement, parce que en fait, le vélo, ça reste un mode de transport individuel. Donc,
oui.
Le bienfait qu'on dit des fois de la voiture, d'ouverture, le sentiment de liberté, je peux aller où je veux, je peux me garer où je veux. Déjà, d'une part, il est de moins en moins vrai parce que bah, aujourd'hui, on sait bien que se déplacer en voiture en ville, c'est de plus en plus de contraintes, ouais. Que ce soit l'engorgement ou le stationnement.
D'ailleurs, on salue la ZTL, je crois, ouais. Zone à trafic limité, qui vient d'ouvrir aujourd'hui dans Paris.
Exactement, qui vient mettre certes plus de contraintes aux voitures, mais plus de liberté pour les autres modes de transport. Et donc, se déplacer en vélo en zone urbaine, aujourd'hui, c'est pas de congestion.
Ouais.
Avant qu'on arrive à des vrais bouchons de cyclistes, on a encore un peu de marge. Et aussi peu de contraintes de stationnement. Donc finalement, et surtout une vraie flexibilité, c'est que ceux qui vont vous dire bah, « j'ai pas de train, j'ai pas de mode de transport à ces horaires-là », le vélo vient apporter cette flexibilité, vous ouais. le prenez en bas de chez vous, et vous le stationnez en bas de votre lieu de travail, et c'est quand même quelque chose d'un point A à un point B qui est très efficace.
Alors il est 14h15, ça va être le moment de l'agenda et de la pause musicale de Rayon Libre. Au micro toujours aujourd'hui, on a Sylvain Redel, directeur général de Mobilité Demain. Il vient nous présenter un programme qui s'appelle Good What. Quoi faire, que voir, que lire avec son vélo cette semaine? Et d'abord un peu de lecture, pas un livre sur le vélo, juste un livre qui s'appelle Vivre Vite de Brigitte Giraud, édité chez Flammarion. Prix Goncourt 2022, l'enchaînement de micro-décisions, micro-choix, des micro-événements qui conduisent à la mort par accident de son mari sur son trajet domicile-travail. C'était à peu près 4 km et ça se passe à Lyon, donc c'est quelque chose qui va vous intéresser, Sylvain, a priori. Je vous rappelle, demain à Paris, le mardi 5 novembre, au Steel Coffee Shop, la présentation du livre blanc, encore un, de la French Cycling Tech, le vélo en mode start-up. À voir aussi un documentaire disponible sur France TV, Grigny, les vélos de la liberté, un lien sur la fiche de l'émission et sur le site. On va s'écouter The Good, The Bad and The Ugly en version dub par Mato, c'est un extrait de cet album Hollywood Dub.
Cause commune, la voix des communs.
Vous êtes toujours sur Cause commune 93.fm, la deuxième partie de Rayon Libre avec Sylvain Redelet, Good What, le plein de good vibes. Sylvain, revenons à Good What et sa réalité économique. Donc après un an de financement uniquement privé, livrez-nous un message d'espoir peut-être. La transition subventionnée, non subventionnée, elle est possible ?
Oui, elle est possible. C'est plus simple de s'appuyer finalement sur les, ce qu'on a appelé des fois les early adopters, ceux qui ont commencé ouais. GoodWatt assez tôt, qui nous ont fait confiance encore cette année, malgré effectivement une augmentation des tarifs, puisqu'il n'y a plus de subventions. Mais parce qu'ils ont été très satisfaits du service rendu, c'est-à-dire vraiment l'idée de faire, de fabriquer des cyclistes. Voilà, j'aime bien cette image-là, puisque finalement, il faut aller convaincre des automobilistes de passer au vélo, et c'est ça qui va permettre, qui va permettre l'atteinte des objectifs environnementaux et du bien-être chez son employeur. La fabrique des cyclistes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien intégré aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va.
On est cycliste, évidemment.
Oui, mais c'est surtout que les pouvoirs publics vont faire de l'infrastructure en disant si je fais de l'infrastructure, ça suffit. Les employeurs vont acheter des vélos en disant si j'achète des vélos, c'est bon, c'est gagné. Et en fait, le plus dur à faire, c'est de convaincre les personnes d'utiliser ces infrastructures et d'utiliser ces vélos. Qu'est-ce qui va faire que moi, en tant que citoyen, je vais changer mes habitudes de déplacement, je vais changer mon mode de transport? C'est pas simplement la construction d'une piste cyclable en bas de chez moi. Ça peut être un argument, mais c'est pas le seul. Et c'est pas simplement parce que mon employeur va dire « Est-ce que tu veux un vélo ?» Il va falloir essayer de lever les freins à la pratique. Mmh. Et lever les freins, ils peuvent être nombreux, et c'est pas que l'infrastructure.
Et alors justement, vous parlez d'infrastructure. Là, il se murmure que le plan vélo, il y a 400 programmes, que le plan vélo n'est plus. Quel regard vous portez, vous, en tant que directeur général de Mobilité Demain, qui portait ce programme GoodWatt? Quel regard portez-vous si jamais demain, les pistes cyclables, on n'en fait plus?
C'est sûr que c'est un mauvais signal, parce que aller dire que finalement le vélo, comme je disais, s'est battu pour gagner ses lettres de noblesse et aujourd'hui d'être considéré comme un mode de transport, c'est le premier sacrifié en disette budgétaire. Bon, c'est pas forcément un bon signal de sérieux sur la filière vélo, et c'est dire finalement c'était bien quand fallait faire un peu de publicité, de communication, mais maintenant revenons aux choses sérieuses et arrêtons ça. Donc c'est pas un bon signal. Pour autant, ça veut pas dire que c'est la mort du vélo, et effectivement il faut continuer à convaincre, et c'est l'importance finalement de la transition et de lever les freins à la pratique qui va permettre au vélo de continuer à s'étendre. Il y aura peut-être pas autant d'infrastructures que ce qu'on souhaite, et le besoin est immense pour autant, mais ça nous empêche pas d'aller convaincre nos proches, nos entourages, les employeurs en bas de chez nous, d'essayer de proposer à leurs collaborateurs de se déplacer autrement.
Quand le programme GoodWatt était subventionné, il ne l'est plus. Vous avez dû faire des ajustements. C'est quoi les ajustements que vous avez dû faire pour rester et devenir viable?
Il y a eu différents, effectivement, ajustements. La plupart des actifs ont été financés pendant le programme, c'est-à-dire qu'on avait...
Donc la flotte de vélos.
La flotte de vélos, qui est le plus gros actif, mais également notre application mobile, notre site internet, etc. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on puisse amortir. Donc heureusement, on continue à en bénéficier aujourd'hui et ne plus en payer les frais. Effectivement, il y a eu une augmentation des prix, il y a eu une optimisation de la logistique, des réflexions sur le stockage des vélos, sur la saisonnalité de notre activité. Puisque,
Très saisonnier.
C'est saisonnier, c'est-à-dire que quand on demande à un employeur quand est-ce que vous souhaitez recevoir vos vélos ou faire l'expérience GoodWatt, tout le monde va citer spontanément mai, parce qu'en plus il y a mai à vélo à ce moment-là comme événement national, ou le septembre, la semaine du développement durable. Aller proposer des vélos en décembre, c'est pas chose aisée. Pour autant, et on l'a bien aussi montré dans le livre blanc, l'adoption du vélo est plus forte, on arrive mieux à convaincre sur les mois d'hiver ou de demi-saison, comme le début du printemps, la fin de l'automne, parce que ceux qui sont convaincus à ce moment-là vont l'être toute l'année.
Ils ont passé le plus dur, entre guillemets.
Ils ont fait le plus dur, être convaincus pendant l'été, on l'est tous, en vacances, on va se déplacer en vélo, on se dit c'est super, et puis quand vient l'hiver, un certain nombre retournent à leur mode de transport antérieur. Alors que quand on est convaincu par 5 degrés l'hiver avec une bruine incessante, c'est que vraiment on est convaincu.
Est-ce que ça veut dire par exemple que vous vendez plus cher vos locations de vélo, votre dispositif GoodWatt au mois de mai qu'au mois de décembre ou pas?
Je vais le tourner autrement, on va faire plus facilement des promotions sur des mois un peu moins sexy, de début d'année, fin d'année, parce qu'on a tout intérêt à lisser au maximum l'activité tout au long de l'année.
C'est une question de verre à moitié, vide ou à moitié plein.
Tout à fait.
Est-ce que le prix, justement, aujourd'hui, quand vous allez voir les employeurs, le prix au vélo prêté ou loué, c'est le frein principal?
Oui, c'est un frein, parce qu'il faut essayer de faire comprendre qu'on n'est pas sur de la location.
Ouais.
C'est-à-dire que notre expérimentation GoodWatt, elle dure un mois. Un employeur va se dire, ça fait cher la location d'un mois. Et c'est là où le discours, c'est mais ce n'est pas de la location. On est en train de convaincre un de vos collaborateurs de changer son mode de transport. On l'accompagne, on le coach.
Ouais.
En fait, on est en train de fabriquer un cycliste. Et à combien vous évaluez le coût de la conversion d'un automobiliste au vélo ? Aujourd'hui, on peut chiffrer des retours sur investissement, on le fait, et en général, le retour sur investissement, il est rentabilisé en quelques mois. C'est-à-dire que les économies financières générées par le passage au vélo d'un collaborateur sont sans commune mesure par rapport au coût d'investissement dans le dispositif. Donc le retour sur investissement, il est assez fort. Pour autant, l'employeur, il va regarder le coût et il va se dire, bah, effectivement, si je ne regarde que le vélo qui est mis à disposition, ça fait cher le vélo. Mais il faut bien comprendre l'accompagnement qui est autour, le coaching, tout ce qui est fait pour que le collaborateur ait envie d'essayer au maximum son vélo et soit convaincu.
Il est 14h25, on va écouter Abel Guggenheim pour sa chronique. Avant, je vais quand même vous poser cette question par anticipation. Vous avez 3 minutes, Sylvain, pour y répondre. C'est quand vous déployez votre programme au sein d'une entreprise ou chez un employeur, peu importe, est-ce que vous savez si en parallèle, il y a une sensibilisation auprès des automobilistes de l'entreprise, la cohabitation des cyclistes automobiles sur la voie publique ? T'es Abel Guggenheim et puis bah, Sylvain, vous avez 3 minutes pour réfléchir à ça. Et Abel, il se pose la question, est-ce que le ressentiment anti-cycliste, est-ce qu'il est systémique ou pas. Abel, c'est à toi.
Bonjour, je vous parle à nouveau de Paul Varry. Plusieurs rassemblements de cyclistes ont eu lieu à la suite de sa mort. Dès le lendemain, devant l'église de la Madeleine, tout près du lieu du drame, le samedi suivant, une minute de silence a été observée devant de nombreuses mairies dans toute la France, quelques jours après, devant la mairie de Saint-Ouen, où il a habité et milité quelques années. D'autres occasions de rendre hommage à Paul auront lieu dans les jours qui viennent à Paris-Centre, où il a habité ensuite. Il se trouve que c'est aussi mon cas, et nous nous retrouvions régulièrement, alternativement en visio ou en présentiel, au comité des mobilités actives de ce secteur, regroupant les 4 premiers arrondissements parisiens. C'est aussi lors des réunions publiques concernant les différents aménagements dans notre secteur, auxquels nous participions aussi tous les deux, que j'ai pu apprécier ses qualités militantes et humaines. Peut-être suis-je donc encore plus touché par cet événement que d'autres cyclistes. Ce qui m'a le plus impressionné lors de ces rassemblements, c'est que nous nous sommes aperçus en discutant entre cyclistes que presque personne parmi nous n'avait jamais été confronté à l'un de ces accès de violence gratuite de la part de conducteurs de véhicules motorisés, je ne dis pas comme à mon habitude, et de conductrices, parce que ce sont très très généralement des hommes. Et beaucoup avaient, en se remémorant les faits, l'impression qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ce qui est arrivé à Paul leur arrive aussi. Une parole un peu forte, un geste touchant la sacro-sainte voiture. Mais cette libération de la parole des cyclistes se fait en interne et nous ne réussissons pas à faire ressentir par l'ensemble de la population non cycliste l'intensité de la violence motorisée que nous subissons. Cette violence est pourtant bien documentée, en particulier grâce aux nombreuses images des caméras GoPro de cyclistes. Ces images, souvent spectaculaires, ont pourtant été très largement vues lors des nombreux débats qui ont eu lieu après le drame, en particulier sur les chaînes d'infos qui les passaient en boucle, comme à leur habitude, à côté de l'image de la personne qui parlait. Mais j'ai l'impression qu'elle n'imprime pas. La violence motorisée est pourtant commune et étudiée depuis longtemps. Sa meilleure description n'est sans doute pas un écrit scientifique ou journalistique, mais un dessin animé de Walt Disney de 1950, ce n'est donc pas nouveau, montrant une personne parfaitement calme et tranquille devenir un véritable monstre et multiplier les actes de violence contre les autres juste après s'être installé au volant de son automobile. Mais un autre phénomène entre ici en jeu, ce que j'appelle la cyclistophobie. Je l'employais dans une intervention dans l'émission Biclou à la fin de l'année 2020, et plusieurs fois dans cette chronique, en particulier en mai 2022, en évoquant un acte de violence gratuite de 2 camionneurs contre un cycliste. On mettra sur le site de l'émission les liens vers les documents que je viens de citer. À lundi prochain, il se peut que je continue à vous parler de ce tragique événement.
Merci beaucoup Abel. Donc une dernière question pour vous Sylvain, en moins d'une minute. Est-ce que vous savez s'il y a des sensibilisations auprès des automobilistes de l'entreprise quand vous arrivez avec votre programme vélo ?
Alors, un des enjeux du programme Goodwatt, c'est justement de combattre le cliché de l'accidentologie forte du vélo. Donc, on ne va pas forcément mettre en avant le danger du vélo sur la route. Par contre, on propose une formation savoir rouler à vélo à tous les participants du test. Et ce sont des, comme je disais, des automobilistes. Et on va les emmener dans la circulation autour du site employeur pour leur montrer un peu comment se comporter sur la route et comment prendre une infrastructure. Et ils réalisent à ce moment-là l'importance de bien se placer en tant que cycliste, mais aussi de comment interagir avec les autres automobilistes. Et des fois, ils réalisent effectivement les comportements dangereux des automobilistes qui peuvent être les leurs lorsqu'ils sont au volant de leur voiture. Donc c'est intéressant, nous on trouve ça important de les confronter à la circulation, puisque c'est plus aisé de se former avant le mois de test et de se rendre bien compte de comment les comportements qu'il peut y avoir sur la route pour éviter de les reproduire après lorsqu'on est au volant.
Eh ben merci beaucoup Sylvain. Auditeur, auditrice, Sylvain, je vous invite à enfourcher votre vélo aujourd'hui, demain, après-demain, avec ou sans subvention, avec ou sans plan vélo. N'oublions pas d'aller pédaler, puisqu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau président élu aux États-Unis, ou peut-être une nouvelle présidente, on ne sait pas, on verra. Restez sur 93.1 FM, Cause Commune. Merci de votre fidélité et merci pour vos messages et vos commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine.
Rayon Libre.